Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle audio rencontre. Et cette fois-ci, ce sera un spécial écriture création de personnages. Je l'ai précisé tout à l'heure, je le reprécise maintenant. Mon expérience n'a rien d'absolu. Je partage des questionnements que j'ai eus et que j'ai encore, car on n'a pas de réponse tant qu'on n'a pas trouvé la bonne question. Qu'est-ce que je dis ça bien? Très souvent, c'est une affaire d'avoir ou de prendre conscience de chaque choix qu'on fait en matière de création de personnages. Et si on crée un personnage en pleine conscience, en connaissance de cause, c'est OK, hein, tous les choix sont OK. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, personnellement. C'est lorsqu'on commence, on reproduit par mimétisme, on va inconsciemment reproduire ce qu'on a vu chez d'autres auteurs. Des comportements de façon mécanique, inconsciente chez les personnages. Voilà, il y a quelque chose qui se fait de pas très très conscient. C'est là où on risque de passer à côté de quelque chose au sujet du personnage et de soi-même. Donc c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est tout ce qu'on va essayer de faire. Si on se trouve, on se pose les bonnes questions, au bout d'un moment, ça fait émerger plein de trucs au niveau conscient. Et c'est là que ça devient intéressant. Le processus de création du personnage à proprement parler. Alors là juste, je vais partir sur des exemples assez concrets me concernant. C'est intéressant parce qu'en fait, dans le cas de la passe miroir, je ne peux pas dire oui, j'ai décidé intellectuellement de créer des personnages. Ophélie comme ça, Thorne comme ça. Ça s'est fait totalement spontanément. Ça s'est fait complètement à mon insu. Les personnages vont émerger de nulle part sans que j'aie aucun effort à faire. Donc là, c'est clairement, c'est l'inconscient qui avait quelque chose à exprimer et c'est arrivé, ça a basculé tout d'un coup de l'arrière-plan vers l'avant-plan et là, tout d'un coup, les personnages étaient sous mes yeux. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas eu tout un travail à faire pour faire connaissance avec eux, les approfondir, les affiner, pas du tout. Mais voilà, il n'y a pas eu de. Je ne peux pas dire, je me suis mise devant ma feuille et dit, bon, voilà, il faut que je crée des personnages. Là, ça s'est fait spontanément. Alors que ce qui est marrant, c'est que pour mes projets actuels, ça a été un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu une idée, c'est vraiment une idée d'histoire, en fait. Et c'est à partir de là, c'est en réfléchissant et en tournant autour de cette idée que des personnages ont commencé à se dessiner par rapport aux différentes problématiques que pouvait soulever l'idée. Donc, j'ai fait l'expérience des deux et les deux sont super intéressants. Alors, la question qu'on m'avait posée, je pense, les questions qu'on me posait le plus souvent par rapport à la création des personnages, c'est comment créer des personnages principaux authentiques. Et pour moi, ça veut dire donc incomplet et imparfait. Alors, encore une fois, je vais partir sur des exemples assez concrets. Dans la passe miroir, je suis partie sur des personnages qui clairement ne sont pas parfaits. Ce qui moi m'a intéressé de voir, par exemple avec le personnage d'Ophélie, c'est elle est souvent qualifiée d'anti-héroïne. Donc, et pour moi, je ne sais pas si je me le formulais en ces termes. En tout cas, c'est un personnage que je voyais en hibernation. Pour moi, tout était encore à se révéler. Elle était un peu à l'état, on va dire, c'est une graine qui ne demandait qu'à éclore, mais c'est à travers des épreuves, tout un tas d'expériences à vivre que tout ça devait se révéler. Donc, pour moi, la réflexion de départ par rapport à ce personnage-là, le personnage principal hein, de la passe miroir, c'était voilà, un personnage qui est encore un peu endormi, en fait. Et souvent, d'ailleurs, il y a pas mal de lecteurs pour qui ça a été un petit peu problématique par rapport à Ophélie, de se dire, tiens, ils avaient du mal à la trouver sympathique parce qu'elle exprimait relativement peu d'émotions, elle était assez passive. Mais pour moi, voilà, tout ça, c'était totalement voulu. Hein. J'ai dit, c'est ça qui est intéressant, c'est justement partir d'un personnage qui a encore beaucoup à apprendre et qui va apprendre à s'affirmer, s'émanciper. Voilà, tout ce processus-là, c'est ça qui est intéressant. Et oui, donc il y a Aubépine qui pose la question, qu'est-ce qu'une anti-héroïne? Et il y a Yael qui répond de façon, ben c'est bien, comme ça fait les questions-réponses, ça ne me fatigue pas trop, qui ne correspond pas à l'archétype de l'héroïne. Merci. Et bah là, c'est par rapport au personnage d'Ophélie, mais le personnage de Thorne aussi. Alors là, en matière de personnage incomplet et imparfait, ça se pose bien là aussi. Thorne le tortueux, qui, en fait, ça, on ne le voit pas forcément tout de suite, mais pour moi, c'était vraiment ainsi que je me le représentais. C'est celui qui va se responsabiliser d'absolument tout, quitte à ce que ça se fasse au détriment des autres. Mais ouais, qui porte sur ses épaules, ses frêles et maigres épaules, toutes pointues, le poids du monde. Et oui, je vois qu'il y a des personnes dans le chat qui disent que pour eux, pour elles, pardon, l'identification à Ophélie a été tout à fait possible. J'ai un certain nombre de lectrices et de lecteurs qui se sont retrouvés dans Ophélie, justement, dans cette. Bah dans cette maladresse, dans cette gaucherie, dans ce côté un peu renfermé, hein, on peut le dire. C'est plutôt une introvertie. Alors, parfois, on m'a dit d'Ophélie qu'elle était timide, mais moi, je ne la vois pas comme quelqu'un de timide. C'est différent. C'est vraiment plutôt vraiment le personnage un peu fermé. Donc, en fait, les questions que je ne me suis pas posées forcément tout de suite, parce qu'au début, voilà, moi, la première fois que les personnages ont émergé spontanément de la passe miroir, tout de suite, je me suis dit, allez, hop, il faut que j'écrive, et tant pis, je verrai après comment ça se passe. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte que je restais un peu à la superficie et à la surface des personnages. Ça, c'est quand j'ai mis mon histoire sur Plume d'Argent, j'ai bénéficié de commentaires très intéressants. Et un de ces commentaires, justement, j'avais une personne qui m'avait dit qu'elle avait un problème avec Ophélie, en ce sens que bah, je ne dévoilais jamais ce que ressentait Ophélie. On ne sait, enfin, elle me disait, on voit Ophélie qui vit tout un tas de mésaventures, mais à aucun moment, pardon, on ne sait ce qu'elle ressent, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup étonnée parce que je me suis dit, mais si on sait ce qu'elle ressent. Et j'ai relu mon texte et je me suis aperçue qu'à aucun moment, je ne le disais. C'est-à-dire que pour moi, c'était tellement évident au moment de l'écriture, mais je me suis dit, c'est vrai que si je ne l'écris pas, le lecteur, il ne peut pas être au courant. Et en fait, j'avais ainsi. Enfin, j'étais entrée, on va dire, dans une écriture où je décrivais toutes les actions d'Ophélie. La façon, enfin, les dialogues, la façon dont elle interagissait, quand on sait à quel point elle est peu interactive au niveau des dialogues, effectivement, ça ne laissait pas beaucoup d'éléments au lecteur. Mais en fait, relativement peu d'introspection. Je ne rentrais pas dans ses pensées et encore moins dans ses émotions. Donc, bah ça, c'est quelque chose au moment de la réécriture. Je me suis dit, bah, tiens, maintenant, j'ai envie d'explorer un peu plus le personnage. Et de me dire, bah tiens, peut-être qu'il est temps que je me pose aussi des questions, parce que je me rendais compte que moi-même, il y avait des questions, je ne me les étais pas posées, donc je ne savais pas comment y répondre. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'elle tient bon? Qu'est-ce qui l'a fait avancer? Et c'est là que là, j'ai commencé donc à avoir un questionnement. Alors là, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à me poser les bonnes questions, ça a été l'anatomie du scénario, si je ne me trompe pas, c'est de John Truscby. J'espère que je n'écorche pas le nom. Je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu un résumé extrêmement détaillé et qui donnait déjà plein de pistes de réflexion extrêmement intéressantes. Donc voilà, moi ça m'a aidé. Je ne dis pas que j'ai tout pris, mais il y a beaucoup de réflexions qui me sont venues à ce moment-là et qui m'ont beaucoup aidé par la suite. Et ben, la première question que je me suis posée, du coup, ben, c'est de me dire, mais tiens, en fait, si Ophélie, comme tout le monde, hein, est un personnage fondamentalement incomplet, qu'est-ce qui lui manque? Consciemment ou pas, qu'est-ce qui manque? Et de quoi est-ce qu'elle a besoin pour se sentir complète? Et je me rendais compte que ben, en fait, je ne savais pas répondre à cette question. Hein. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ben, tiens, je pense que pour Ophélie, ce qui elle l'a fait avancer, ce qui fait du sens pour elle, ce dont elle a besoin pour se sentir complète, c'est de vérité. C'est pour ça qu'elle est à ce point obsédée par par le passé. Voilà, il y a ce côté un peu curiosité, mais quête de vérité surtout. Par rapport à Thorne, je me suis posé la même question. Je me suis dit, bah, du coup, lui, qu'est-ce qui lui manque pour qu'il se sente complet? Et au bout d'un moment, bah, ça m'est venu aussi spontanément. Je me suis dit, bah, tiens, pour lui, ce serait vraiment il a le besoin de se sentir indispensable. Et une fois que ça s'est formulé, eh ben, ça suffit pour, on va dire, pour, je ne dis pas qu'on a tous les personnages dans leur entièreté, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais il y a quelque chose au niveau de l'essence du personnage qu'on commence à saisir. Et là, on peut entrer en dialogue avec lui et le voir vraiment bah, prendre place dans l'histoire et toutes les actions du personnage ont un sens. Alors, ce ne sera pas forcément évident pour le lecteur au premier regard, parce que ce qui est intéressant aussi, alors, ce qui a été intéressant pour moi en tout cas, c'était de révéler les personnages strate par strate. Voilà, c'est de se dire, bah, tiens, il y a la première impression, puis la deuxième impression, puis toutes les impressions qui peuvent suivre, et des personnages qui vont se révéler petit à petit. Et sachant qu'il y a peut-être des parts d'ombre qui peuvent subsister. On n'a peut-être pas vocation à tout révéler du personnage entre le début et la fin du roman. Il y a un Claude qui dit comment savoir ce qui est intéressant de révéler ou non de son personnage. J'ai tendance à tout balancer, même si ce n'est pas forcément utile. Ben, c'est une bonne question. Ça, je pense que ça va vraiment dépendre par rapport à l'histoire proprement dite. Qu'est-ce qui va servir l'histoire? Qu'est-ce qui a du sens par rapport à l'histoire? Déjà, se focaliser là-dessus. Oui, du coup, par rapport à. Une fois que je m'étais posé cette question-là, qu'est-ce qui manque au personnage? Il y a aussi la question de bah, tiens, qu'est-ce qui les fait avancer? Quel va être leur désir? Plus ou moins conscient. Le désir d'un personnage n'est pas forcément conscient. Et ben, là, ce qui va être intéressant, c'est de voir tout ce qui va se mettre en travers du chemin du personnage entre voilà, ce qu'il souhaite atteindre, son objectif et lui. Et ben, ça, c'est la force d'opposition qu'on va commencer à mettre en place. De se dire, ben, tiens, toute finalement l'histoire va naître de quoi? De ça. Voilà, le personnage aspire à atteindre ça, ben, et forcément, il ne va pas l'atteindre tout de suite. Et on va mettre des bâtons dans les roues, des antagonistes. Alors là, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est prévu, hein, la figure de l'antagoniste. Mais voilà, toute la tension dramatique va venir plus la force de résistance, la force d'opposition est forte entre le personnage et son désir, plus ça fait grimper, ça fait monter la sauce. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les personnages vont affronter et où ce qu'ils vont fuir. C'est ça aussi qui peut être intéressant d'explorer. Par rapport à l'objectif qu'un personnage se pose, donc on va dire par exemple par rapport à Ophélie, la quête de vérité. Est-ce que le fait d'atteindre l'objectif comble le personnage? Ça, c'est une nouvelle étape qui est intéressante aussi à se poser. Et bah, c'est une question à laquelle j'étais confrontée au moment où Ophélie commence à avoir des réponses. Alors, je ne spoilerai rien, ce n'est pas du tout la vocation de cette audio rencontre et d'aucune autre de façon générale, pas de spoiler, mais voilà, dans l'histoire, elle va avoir quand même des réponses à ses principales questions. Et ce qui m'a intéressé de voir, c'est de me dire, bah, tiens, est-ce que ça l'a comblé? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne reste pas malgré tout un sentiment de frustration ou d'insatisfaction? Par rapport à ça, par rapport à bah, la quête de vérité, j'ai envie de dire, où est-ce que ça s'arrête, par exemple? Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Au bout d'un moment, on a ses limites en tant qu'être humain. On peut savoir beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses, mais voilà, il y a des choses qui seront destinées à rester dans l'ombre. En tant qu'être humain, on a cette limite-là, dans le temps, qui fait qu'on voilà, on ne peut pas tout savoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à lâcher aussi au bout d'un moment? Et en fait, c'est tout ce qui est de cet ordre-là. Là où ça devient particulièrement intéressant, bah, c'est de se dire, bah, ce sont on va dire des thèmes auxquels on est soi-même confronté. C'est pas que les personnages, c'est soi-même, ça doit résonner en soi. C'est qu'on se dit, bah tiens, moi-même, qu'est-ce qui fait que ce personnage, je l'ai créé ainsi, avec cette motivation-là, avec ce désir-là? Ça, voilà, ça, c'est l'effet miroir, sans mauvais jeu de mots, qui fait que ça va, voilà, ça va interroger aussi à l'intérieur de soi. Donc, voilà, la question du sens, hein, ça peut être aussi, voilà, c'est vraiment la colonne vertébrale, au moment de la création d'un personnage. Qu'est-ce qui fait sens pour lui? Qu'est-ce qu'il va chercher pour donner du sens à ce qu'il vit? Est-ce qu'il trouve du sens ou est-ce qu'il va perdre du sens? Tout ça, tout est intéressant. Donc voilà, tout ça, moi, c'est au moment où j'ai entièrement repris le premier tome de La Place Miroir pour faire une réécriture complète. Et ben c'est à partir du moment où je me suis posé toutes ces questions que tout est devenu extrêmement facile et limpide. Où là, je me suis dit, pour moi, c'est une évidence. C'est ça qu'Ophélie, c'est ça qui l'a fait avancer. Et à chaque fois, renouveler l'enjeu, parce que voilà, elle va peut-être atteindre, par exemple, obtenir telle réponse à une question, ben ça va systématiquement, ça relance une nouvelle question. Et du coup, ça va. Et de voir, bah tiens, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à tenir bon, parce que bah, tendance à ne pas beaucoup l'aménager. Et pareil avec Thorne. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à tenir bon? Vu tout ce qu'il traverse, voilà, le fait qu'il n'a pas beaucoup de gratification par rapport à la responsabilité qu'il se met. Ben voilà, tout ça, ce sont des questions. Il n'y a pas forcément, encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue. Mais ce qui est super intéressant, c'est la question. Et quand on a la question, voilà, on va dire tout le processus autour du personnage se fait presque, j'ai envie de dire, naturellement. Alors il y a aussi, pour créer un personnage, puiser dans sa propre réalité. Alors là, je vais parler d'un de mes tout premiers textes. Donc c'était avant La Passe Miroir, une époque préhistorique, où j'écrivais, bah tiens, je vais pouvoir en parler, j'écrivais de la fanfiction, de Harry Potter, de la rogue fiction plus spécifiquement. Donc je pense que les personnes qui me connaissent bien, voilà, savent que j'ai ce passé-là. Et dans cette histoire, j'ai créé un personnage, une héroïne. Là, clairement, on est dans le personnage fantasme. J'ai attribué à mon héroïne tout un tas de qualités qu'en fait j'aurais voulu idéalement avoir à cette époque-là de ma vie. Donc c'était un personnage qui n'était pas extrêmement réaliste, et c'était aussi, bah, en plus là, avec tout le domaine de la sorcellerie, bah, forcément il fallait qu'elle soit super puissante, hein, la plus grande sorcière de tous les temps, Harry Potter, bah, pff, voilà quoi, c'est un petit joueur à côté. Donc voilà, je m'étais fait bien bien plaisir. Je suis allée assez loin dans, voilà, on va dire dans le fantasme du personnage, qui a à peu près toutes les qualités que moi j'aurais en tout cas idéalement voulu avoir. Et c'est bien d'en passer par là, hein, y a aucun problème avec ça. C'est juste que au bout d'un moment, j'ai compris que ça ne me suffisait plus. Je me suis dit, ok, là, dans cette histoire, je me suis fait bien bien plaisir. Oui, voilà, la fameuse Mary Sue, voilà. C'est tout à fait ça. À l'époque, je ne connaissais pas le terme, mais c'est exactement ça. Mais voilà, une fois qu'on a fait le tour de ça, hein, qu'on a créé sa petite la Maricio aux cheveux verts, mince, je suis grillée. Ben voilà, je me suis fait bien bien plaisir. Évidemment, je me suis dit, voilà, maintenant j'ai envie de passer à une autre étape. Avec Ophélie, c'est pas venu tout de suite. Mais ça s'est fait petit à petit, et ça s'est fait sur des années. Ce sont, ben, les personnages qui vont naître de ce qui nous fait peur, de ce qui nous met mal à l'aise, de ce qu'on ne comprend pas, de tout ce qui n'a pas été résolu ou qui n'a pas été vu en soi. Et ben, le personnage qui nous confronte à notre propre incomplétude. Et là, c'est là que ça devient très remuant et passionnant. Donc, dans le cadre de La Passe Miroir, alors tout est dans le titre, Là, pour moi, bah, c'était clairement moi et mon propre rapport au miroir. Et là, dans le côté vraiment absolu de la chose, tout ce qui est du domaine de l'apparence, le rapport à l'image qu'on a de soi-même, de l'image en société. Moi, j'étais à cette époque-là, au début de la passe miroir, une personne ben, assez timide, hein, il faut le dire. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, à cette époque-là, j'aurais pas pu. J'étais vraiment maladivement, j'aurais été maladivement terrorisée à l'idée de prendre la parole devant plusieurs personnes. C'est non seulement donc l'image en tant qu'apparence, mais tout ce qu'on dégage de façon générale, et même le langage. J'étais pas du tout à l'aise dans ma façon de m'exprimer. J'avais toujours l'impression que j'avais rien d'intéressant à dire, que je n'avais pas de conversation. J'ai passé vraiment par toute une phase ainsi où je me pensais systématiquement en creux. Avec la passe miroir, il a fallu que j'aille creuser de ce côté-là. Mais ça, c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça ne m'est pas venu tout de suite. Moi, au début, je pensais que c'était juste une histoire plaisir. Je me suis dit, oh, bah, tiens, oui, je vais faire un personnage comme ça, qui traverse les miroirs, et qui ne paye pas de mine comme ça. Mais c'est petit à petit que j'ai compris tout ce qu'Ophélie était en train de m'apprendre sur moi-même. Et on a évolué ensemble sur des années. Et c'est sur le dernier tome, et encore une fois, je ne spoilerai pas, mais le dernier tome a fait remonter à la surface peut-être une des dernières choses que je ne voulais pas voir. Alors, c'est juste pour là, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je pense que j'en ai pas fait un mystère. Quand j'ai créé la passe miroir, donc c'était l'été 2007 que j'ai créé la passe miroir. Et quelques mois après, on m'a diagnostiqué un cancer à la mâchoire, forcément avec une grosse opération chirurgicale qui a suivi. Et je vous dis pas du coup par rapport au rapport à l'image, déjà que c'était pas confortable avant. Je vous dis pas ce que c'est devenu après. La passe miroir m'a accompagnée dans tout ce processus-là, mais pendant très longtemps, dans l'histoire, je ne pouvais pas aborder ou c'était très inconfortable, trop tout ce qui était médical, par exemple. Dans le début de la passe miroir, on va dire, il y a relativement peu de sujets en rapport avec la maladie, le milieu hospitalier, et tous ceux qui m'avaient accompagné dans les coulisses au début, je n'en parlais pas. Et la passe miroir m'aidait justement à m'évader de ça. Et le personnage d'Ophélie m'aidait à voilà, ne pas aller voir ça de trop près. Mais j'y ai été ramenée dans le dernier tome, tout est revenu. Et ça n'a pas été forcément confortable parce que ça fait remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur à la surface, mais tant mieux. Parce que ça m'a permis de regarder beaucoup de choses en face. Voilà. C'est vraiment, j'irais pas dire thérapeutique, mais libérateur. Là, c'est quand les personnages nous donnent des leçons de vie. Hein. J'en arrive au dernier point par rapport à la création des personnages authentiques. Quand arrive le moment où les personnages s'émancipent. Alors, je ne sais pas pour les personnes ici qui pratiquent l'écriture de façon, soit en tant que débutant, soit en tant que pratiquant vraiment régulier. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir ces moments où vous aviez prévu quelque chose pour vos personnages sur le papier, voilà, ou dans votre tête, et au moment de l'écriture, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et les personnages se mettent à dire quelque chose à propos d'eux-mêmes qu'on n'a pas vu venir, ou à agir d'une façon, mais c'était pas du tout prévu. Et en fait, c'est parfait ainsi. De se dire, oui, mais ça a tellement plus de sens. Et c'est là où le personnage, en fait, il sait mieux que soi ce qui fait sens pour lui. Je vois des oui sur le chat, donc j'en déduis Voilà. Ces moments où on se dit, bon, très bien, je n'ai plus qu'à revoir tout le plan. C'est ça qui est aussi intéressant de vivre. Hein. C'est ces moments où les personnages font des pas de côté, se mettent à exister par eux-mêmes. Et ça peut se faire soit petit à petit, soit très rapidement dans le récit. Moi, je sais que ce n'était pas forcément le cas au début. Moi, au début, je sais qu'Ophélie, j'étais vraiment dans la maîtrise du personnage. J'étais clairement, j'étais la créatrice, elle était la créature. Au bout d'un moment, ça ne s'est plus du tout passé comme ça. Donc voilà. Je pense que par rapport à tout ce que je voulais évoquer pour la création de personnages principaux authentiques, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir toute la dynamique des relations avec les autres personnages de l'histoire. Alors, là encore, hein, je puise beaucoup dans la passe miroir, dans la matière première de la passe miroir pour m'appuyer. Il y a le rapport à la famille. Donc, pour chaque personnage, je vais dire, tiens, quelle relation il entretient avec sa propre famille, sachant qu'une famille, ça peut être assez complexe. Il y a pas mal d'histoires alors dans la littérature jeunesse dont le personnage principal c'est une figure orpheline. Soit ça va vraiment être un personnage qui a perdu un ou plusieurs de ses parents. Soit il y a donc on va dire le deuil symbolique. Moi, c'est ce par quoi je suis passée avec la passe miroir, c'est la séparation avec la famille. Pour Ophélie, c'est le moment où elle part pour le pôle. Et encore, elle a la tante Roselyne qui l'accompagne. C'est le dernier lien qui la relie encore à l'entité de sa famille. Mais c'est quand même un gros cordon ombilical qui se coupe. Et c'est, alors là, je ne veux pas spoiler, mais juste à titre d'indication, c'est là que j'ai décidé d'aller plus loin dans le tome 3 de la Passion Noire, au tout début du tome 3, où là, vraiment, la rupture est totalement consommée avec la famille. Et là, cette fois-ci, ce n'est plus quelque chose qui lui a été imposé par la force, c'est un choix qu'elle fait. Je me suis dit, je vais un petit peu plus loin cette fois-ci, dans ce processus-là. Donc, ça peut être intéressant de voir toute la relation que le personnage va avoir avec la figure de la mère, du père, des éventuels frères et sœurs. Ça peut être aussi des relations, on va dire, d'aliénation, une relation de dépendance. Alors là, forcément, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de la famille d'Archibald. La toile, alors là, en matière d'interdépendance, c'est pas mal. En fait, je me suis complètement inspirée, alors là, pas de la famille en particulier, mais d'Internet. Hein. Pour moi, la toile, c'était vraiment le phénomène, un réseau social, mais incarné. Là aussi, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'explorer hein, avec ce personnage-là, Archibald. Avec ses sœurs et de façon générale avec son clan, ses relations qui sont hyper fusionnelles. Donc ça par rapport à les questionnements par rapport à la famille et aussi évidemment dans la dynamique des relations entre personnages, il va y avoir l'histoire d'amour, l'histoire d'amitié, l'histoire d'amouritié parce que ça c'est possible aussi. Alors, je me permets à ce niveau-là une petite parenthèse par rapport à la relation d'Ophélie et Thorne dans la Passe Miroir, où je me suis mis un point d'honneur à ce que ce ne soit pas une histoire d'amour romantique. là, c'était vraiment un choix extrêmement conscient. Je me suis dit, j'ai envie d'explorer l'amour. Pour moi, c'était important. Mais justement pas au sens romantique du terme, et quitte à flirter avec certains codes, alors notamment le fameux triangle amoureux, quand je mets en place le personnage d'Archibald qui commence à mettre son nez dans l'histoire, pour mieux m'en éloigner, parce qu'en fait c'était pas du tout mon objectif de créer un triangle amoureux à partir de ces trois personnages-là. Et moi ça m'a... J'ai joué avec ça, vraiment. C'est quelque chose pour moi, c'était très plaisant. Pas romantique aussi, au sens où j'ai essayé de privilégier la gaucherie des personnages au charme et au charisme. On ne peut pas dire que Ophélie et Thorne soient des modèles de. Voilà, c'est pas le prince charmant, c'est pas là. Et moi, moi, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait d'écrire et ce qui m'attendrissait vraiment, c'était de voir leur gaucherie à tous les deux. Et une gaucherie qui était exacerbée quand ils étaient en présence l'un de l'autre. Et là où ça a encore cette fameuse effet miroir, là où ça renvoie sur soi, c'est de savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un de fondamentalement gauche. Et à cette époque-là, j'étais très complexée par ça. Je me sentais pas à l'aise, encore une fois, hein, le rapport au miroir, à l'image de soi, la gaucherie faisait partie et la maladresse. J'avais l'impression d'être toujours encombrée de mon propre corps et de ne pas savoir comment le mettre, comment interagir. J'ai l'impression que je faisais que des gaffes ou que, enfin, c'est comme s'il y avait une sorte de ridicule qui colle perpétuellement à la peau. Et ces personnages-là m'ont accompagnée là-dedans et ils m'ont fait beaucoup de bien par rapport à ça. par rapport justement au thème de l'apparence, ça, j'ai plusieurs lectrices qui m'ont contacté pour me dire, est-ce que Thorne, il est beau? Parce qu'on a besoin de le savoir. C'est pas dit dans le texte. Alors moi, ce à quoi je répondais, mais est-ce que c'est important? Et ce à quoi on m'a répondu, oui, quand même. Et là, ce qui est marrant et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi c'est important pour le lecteur ou pour la lectrice. Pourquoi c'est important pour eux. Mais voilà, tout ça, c'est intéressant. Aussi, ce qui m'a intéressé de voir avec donc dans cette relation entre Ophélie et Thorne, qui a fait quand même toute la colonne vertébrale de la passe-miroir, c'est de voir le rôle que joue l'absence. Il y a toute une partie de l'histoire, je veux dire, où on ne voit pas. Tout est écrit très principalement du point de vue d'Ophélie, et il y a une grande partie de l'histoire où on ne voit pas du tout Thorne. Il est souvent absent, il est souvent occupé ailleurs, il s'occupe de ses petites affaires. Il y a des moments où il peut être vraiment absent pendant longtemps de l'histoire, et c'est intéressant d'aller voir pour moi, me dire tiens, qu'est-ce qui continue de se développer en termes de relation alors que l'autre est absent. Et une fois qu'ils sont ensemble, cette illusion qu'on peut avoir de se dire, tiens, l'autre a vocation à remplir le vide qui est en moi. Je reviens toujours à l'incomplétude des personnages. C'est intéressant de voir que l'autre n'a pas justement cette vocation. C'est de voir la limite de ça, de se dire, tiens, on pourrait se dire, parce que dans toutes les histoires d'amour qu'on présente, quand elles sont romantiques et idéalisées, on a l'impression que voilà, le fait, enfin voilà, il y a la consécration, il y a l'amour et tout, ça y est, ça résout tout, les personnages sont voilà, ils ont atteint une sorte d'absolu et jusqu'à la fin de leur vie, sauf que c'est pas ça. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de voir plutôt la dynamique et la force du couple qui permet, qui va, alors donc c'est pas l'autre qui va remplir le vide. Mais c'est la force du couple qui permet d'affronter sa propre solitude. Voilà, pour moi en tout cas, à titre personnel, c'est tout ça qui m'a vraiment accompagnée dans la passe miroir. Et je parle de la passe miroir, mais toujours aujourd'hui dans mes projets actuels, c'est toujours ça. Hein. Je sens que cette thématique m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Et les fameux personnages secondaires, déjà, c'est quoi un personnage secondaire? Rien que le terme secondaire, ça fait un peu mal au cœur. Là, j'avais parlé le rapport à la famille. Quand il y a des histoires, donc soit d'amour, soit d'amitié, où il y a des interactions comme ça entre les personnages principaux et les personnages secondaires, ou dits secondaires. Ce sont tous ces personnages qui vont contribuer à l'intrigue, qui vont accompagner les personnages qui vont être les figures d'alliés, au contraire des figures d'antagonistes, mais qui vont, voilà, ils vont contribuer à faire progresser l'intrigue. Alors moi déjà le terme de personnage secondaire, de toute manière je bloque un peu dessus parce que je me dis simple fait de poser cette étiquette sur le personnage et que quelque part on passe un peu à côté. Surtout que voilà, le personnage secondaire n'a pas vocation à être un faire-valoir. Là, ce serait pour moi dommage de dire que voilà, le personnage secondaire ne sert qu'à mettre en relief les qualités d'un personnage principal. C'est intéressant de voir quand les personnages dits secondaires, et là, vous ne pouvez pas voir, mais je mets toujours des guillemets à chaque fois que je dis secondaire, c'est qu'ils ont leur propre motivation, et leurs propres motivations ne sont pas celles forcément des personnages principaux. Et ça, c'est important. Donc, toutes les questions qu'on a eues à propos des personnages principaux, c'est bien de les avoir à propos de ces personnages-là, même s'ils ne sont pas destinés à jouer un rôle central dans l'histoire. C'est important de se dire, mais tiens, eux, qu'est-ce qui les fait avancer? Qu'est-ce qui, pour eux, a du sens? Dans La Passe Miroir, ben, le personnage de Renard, ben, lui, au début, qu'est-ce qui le motive? Ben, c'est s'habiller, quoi. Il manipule complètement Ophélie, hein, alors que c'est pas l'allié, on va dire, de prime abord, le meilleur pote, tout de suite, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du personnage après. Le personnage de Bérénilde, de voir elle qu'est-ce qui la motive, sachant que c'est une figure très ambiguë, puisque c'est à la fois une personne c'est une amoureuse, elle est très amoureuse donc du personnage de Farouk, donc c'est à la fois une amante, mais c'est aussi une mère. C'est quelqu'un qui est voilà, qui a le besoin, ça c'est Ophélie qui le formule ainsi, elle a le besoin viscéral d'être la maman de quelqu'un. Voilà, tout ça, c'est. Une fois qu'on saisit l'essence de ces personnages-là, on peut raconter quelque chose à travers eux. Et c'est intéressant de voir en quoi, ben voilà, eux aussi ont leurs propres objectifs. Moi, notamment dans la. Alors, encore une fois, je ne spoile pas, mais dans le tome 3 de La Passe Miroir, j'ai fini même par créer un arc narratif parallèle avec des personnages dits secondaires, guillemets encore, pour dire que l'intrigue continue d'avancer avec eux sans les personnages principaux. Ça va avoir un impact par la suite et ça va se rejoindre. Ah oui, alors là, du coup, je vois sur le chat. Je vous suis des yeux, excusez-moi si je n'interagis pas toujours. Je suis parfois prise par ce que je dis, mais je vois vos messages défiler. Je vois que vous répondez très bien les uns aux autres. Voilà, je vois Natkun qui dit: qu'est-ce que je donnerais pas pour un ou plusieurs romans centrés sur les personnages secondaires de La Passe Miroir? Et oui, ça, j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont fait cette réflexion, comme quoi, bah tiens, ça. Ça pourrait avoir matière de prendre des personnages, bah c'est ce qu'on appelle des spin-offs, hein, si je ne me trompe pas, de prendre un élément, on va dire, un peu périphérique de l'histoire et de refaire une histoire à part entière. Alors, à ce niveau-là, je me repose totalement et très lâchement, hein, sur mes lecteurs, mes lectrices, et notamment, alors une petite pensée, je l'ai vu passer dans le chat, mais pour Loud, qui a fait de très, très, très chouettes. Fan art autour de tout ce qui est Renard, Gaëlle, Archibald, elle aura créé pour ainsi dire une existence à part entière, et Victoire aussi évidemment, donc ces quatre-là. J'avais aussi une pensée, bah oui, pour Patricia Lifong, qui elle a créé une mini BD spécialement dédiée à Blasius et Wolf, des personnages du tome 3 et 4 de La Passe Miroir. Donc, heureusement, hein, que j'ai des lecteurs qui sont là pour combler les petites zones d'ombre, ce que je n'ai pas exploré. Dans l'absolu, tout à fait, ça pourrait être tout à fait pertinent de se dire, bah, tiens, j'aurais pu décider de développer davantage certains personnages et de quitte à élargir et de dire, voilà, je vais beaucoup plus loin, je crée un livre beaucoup plus gros. Et là, par contre, je vais beaucoup plus à fond dans les personnages dits secondaires et je commence à. Le truc, c'est que moi, c'est pas ce que j'avais envie d'écrire. J'avais vraiment envie de garder un lien avec eux, de voir où est-ce qu'ils allaient, ce qu'ils devenaient, mais je n'avais pas cet élan d'aller plus en profondeur. Donc, voilà, alors à moins que d'ici 20, 30 ans, j'ai tout d'un coup une illumination dans mon lit, je me dis, ah, faut que j'écrive ça. Ne comptez pas trop dessus. J'ai aussi. Evanimatic sur Instagram qui s'est vraiment approprié le personnage d'Archibald d'une façon extrêmement intéressante et qui lui a conféré une profondeur Bah, qui moi, bah, ça m'a appris. J'ai découvert des facettes du personnage que moi-même je n'avais pas vues en le créant. Et je me suis dit, oui, là, effectivement, ça lui donne quelque chose, hein. Ça lui donne une dimension supplémentaire qui est très intéressante. Donc, et évidemment, bah, puisque je parle toujours des personnages autres que les personnages principaux, bah, la figure de l'antagoniste, le fameux méchant, qui ne doit pas être trop trop méchant. Alors je dis qu'il ne doit pas, mais en fait, c'est pas vrai, hein. Encore une fois, tant que le choix est totalement conscient et assumé, tout est absolument OK. C'est juste, moi personnellement, là, à titre tout à fait personnel, je n'avais pas envie de faire des antagonistes. Alors, pas qu'ils ne soient pas méchants, mais c'est surtout des antagonistes qui ne se perçoivent pas eux-mêmes comme étant méchants. Et ça, ben moi, c'est ce qui m'intéressait de voir. Ces antagonistes qui, eux-mêmes, en fait, ce sont parfois des idéalistes. Là, je ne peux pas rentrer trop trop dans les détails des grands antagonistes de la Passe Miroir, mais pratiquement toujours, ce sont des personnes qui sont absolument persuadées d'œuvrer pour le bien. Et alors là, je pense que ce n'est pas trop trop spoilant si je mentionne le chevalier, puisque lui, il est introduit dès le premier tome. Mais quand j'ai voulu un petit peu farfouiller avec ce personnage-là, c'est de se dire qu'en fait, il est convaincu d'agir par amour. Et c'est d'ailleurs, voilà, c'est ce surnom du chevalier, voilà, c'est lui-même qui se l'est donné, parce que c'est ainsi qu'il se conçoit. Il se conçoit comme une figure chevaleresque. Alors, est-ce qu'il tape un petit peu à côté de la plaque? Ça, c'est un autre débat. Et ce qui est intéressant, justement, avec ce personnage-là, c'était de voir que moi, ben, j'ai eu de grosses difficultés avec lui. C'est de me dire, bah, tiens, ça, c'est un personnage. J'ai beau cerner ce qui le motive, je vois ce qui lui manque, je vois ce qui fait sens pour lui. Et malgré tout, j'ai eu un blocage avec lui qui fait que quand j'avais écrit le tome 2, une des toutes premières versions avec Gallimard Jeunesse, normalement, ben voilà, j'avais écrit comme ça toute une partie de l'histoire où le chevalier continue de jouer un rôle de premier plan. Et à chaque fois, à l'intérieur de moi, ça disait non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas. Et parfois, c'est malheureux, c'est-à-dire intellectuellement, on a l'impression que c'est une bonne idée, mais au niveau émotionnel, au moment de l'écriture, on se dit non, je ne suis pas à l'aise, je sens que c'est pas ça que j'ai envie de raconter. Et moi, c'est dans le tome 2, je suis arrivée avec une impasse avec ces personnages-là, de me dire mais non, je n'arrive pas à le traiter comme j'aurais voulu le traiter, et ça. C'est même frustrant parce qu'on peut ainsi avoir un sentiment d'échec et de se dire non, ça, je vais réécrire, je vais du coup donner une tournure différente et tout doucement le diriger vers la porte de sortie. Mais c'est pas ce que j'avais prévu à la base et ça m'a pas mise à l'aise. Mais c'est juste que je ne voyais pas quelle place il allait occuper dans l'histoire à long terme. Bon, après, faites sortir par quelqu'un par la porte, il revient par la fenêtre. Hein. Chevalier à ce niveau-là, voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais c'est intéressant aussi de voir que il n'y a aucun problème aussi avec le fait qu'il y ait des personnages, alors je dirais pas avortés dans ce cas-là, mais avec qui ça ne fonctionne pas. On peut se dire, tiens, voilà, j'ai l'impression de me donner beaucoup de mal avec ce personnage-là, et malgré tout, ben. Ça marche pas. Et tant pis, hein, il faut lâcher prise, faut pas s'en vouloir, faut pas culpabiliser, c'est comme ça. Et voilà, il faut arriver à trouver son chemin différemment, dire bon bah, je vais faire autrement, et tant pis si c'était pas prévu comme ça. On dit oui, qui est très réconfortant. Dans la vie, on croise tous des gens, pardon, qui ont une importance dans notre vie, puis qui disparaissent. Pourquoi ce serait différent dans l'art? Exactement. Exactement. C'est une très très bonne réflexion. J'avais en fait lu comme ça. Alors je crois que c'est de Jean-Claude Morleva, Terrienne. Je ne vais pas révéler l'histoire, mais j'avais été très impressionnée par la façon dont il y a un personnage qui tout d'un coup est totalement évacué de l'histoire. Et c'est extrêmement abrupt. Je ne l'ai pas du tout vu venir. Et là, j'ai dit chapeau, parce que ça, il fallait vraiment le faire. Donc, par rapport à la figure de l'antagoniste, ce que je disais, c'est donc celui qui est l'antagoniste qui ne va pas forcément se percevoir lui-même comme un antagoniste, et même parfois pour l'antagoniste, c'est le héros qui est l'antagoniste. Donc on peut parfois même raisonner à l'inverse et se dire que si on devait écrire toute l'histoire de son point de vue à lui, s'il faut, l'histoire serait perçue de façon totalement différente. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Intéressant aussi de voir ce que la figure de l'antagoniste va faire ressortir de lumière et d'ombre chez les héros. De voir justement, tiens, qu'est-ce que ça, cette confrontation au personnage antagoniste, voilà, qu'est-ce que ça met en lumière et, ou qu'est-ce que ça révèle d'obscur à propos des personnages. Donc tout ça, c'est très très intéressant à explorer. Évidemment, bah, l'antagonisme aussi qui est très intéressant, c'est quand il se situe à l'intérieur même du héros. C'est quand l'antagoniste n'est pas une figure extérieure, mais qu'il est à l'intérieur. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose aussi. Quand je parlais tout à l'heure de la force d'opposition, c'est vraiment, ça fait partie des différentes stratégies d'écriture. De dire la force d'opposition peut être une force d'opposition extérieure, mais c'est hyper intéressant quand elle est complétée, voire remplacée par une force d'opposition intérieure. C'est à l'intérieur d'un personnage que va se passer tout le conflit. Donc voilà, tout ça, c'est des questionnements quand on se pose la question, eh ben, ça peut amener à, voilà, on voit se dessiner petit à petit le personnage à l'autre bout du tunnel. Alors, je pense que par rapport, je vois qu'il est déjà 15h47, donc voilà, là je m'en tiens là pour la construction des personnages proprement dit. Je voulais voir aussi, ben, là c'est vraiment d'un point de vue écriture, les points de vue narratifs. Pourquoi c'est important, alors je mets encore des guillemets parce que c'est pas important, hein, c'est pas grave hein, si on le fait pas, mais ça fait la différence quand on choisit un point de vue de façon consciente. Je dis ça parce que moi, mes toutes premières histoires, quand j'écrivais à mes tout débuts, je me posais pas du tout cette question. J'écrivais, on va dire, automatiquement, et je me disais pas, tiens, non, tiens, quel point de vue j'adopte dans l'histoire. Donc je me lançais comme ça, j'écrivais. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que je reproduisais ce que j'ai vu. Je voyais d'autres auteurs faire. Je le faisais de façon automatique sans même en apercevoir. Et ce n'était pas réfléchi. C'était donc du coup pas forcément adapté. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est de voir, voir le point de vue, c'est comme une caméra. Et c'est un angle qui fait que vous allez décider sur qui et sur quoi. Vous allez mettre le focus. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la lumière et qu'est-ce que vous allez garder dans l'ombre? Alors, pour parler de façon un petit peu plus concrète, donc là, ça va faire un petit peu cours de français, j'en suis désolée. Donc, on va faire monter des souvenirs de collège en ce qui me concerne. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Le point de vue omniscient. Alors là, c'est vraiment. Je crois que j'avais lu ça. C'est pas dans Wikipédia. Mais une sorte d'équivalence peut-être plutôt pour les jeunes. Et là, il y avait une définition ainsi que j'avais trouvée intéressante. Aucune réalité, la plus dissimulée soit-elle, la plus complexe, la plus inconsciente même, ne lui échappe. Elle n'échappe au narrateur, pardon. Et donc, n'échappe au lecteur. Donc le narrateur omniscient, il sait absolument tout sur tout. Tous les personnages, voilà. Donc si vous écrivez une histoire de ce point de vue-là, ça veut dire que voilà, le lecteur va passer d'un personnage à l'autre, il va le voir tantôt de l'extérieur, tantôt de l'intérieur, et ainsi de suite, quoi, vraiment. Voilà. Et ça peut être intéressant. Moi, je crois que je ne l'ai jamais tenté celui-ci. Ou alors je l'avais peut-être fait à mes tout débuts, mais de façon inconsciente. Je m'étais pas rendu compte que c'était ça que je faisais. Le point de vue externe. Alors, ça va être le point de vue où là, tout le contraire. Vous allez vous placer vraiment complètement à l'extérieur des personnages. On voit tout. On les voit agir. On va voir les personnages parler, mais on ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. On ne sait pas. Tant qu'eux-mêmes ne vont pas s'exprimer ou agir, on ne saura rien d'eux à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment comme si on assistait à un film sans voix off. Voilà. ce serait un petit peu de cette équivalence-là. Là encore, je pense que je n'ai... Je réfléchis, mais je crois que je n'ai jamais utilisé ce moi dans l'écriture, cette technique-là. Ce que j'ai fait, alors là, au début, c'était pas de façon très consciente et donc pas de façon très rigoureuse, c'est le point de vue interne. Donc, c'est quand on va se placer à l'intérieur d'un protagoniste, donc généralement, on va dire la narration se met du point de vue du personnage principal, c'est ce que j'ai fait pendant un passe-miroir avec Ophélie très majoritairement. La quasi-totalité de l'histoire se raconte à travers son point de vue à elle. C'est-à-dire que là, on est glissé dans sa peau, dans sa perception. Ce qu'elle ne voit pas, le lecteur ne le voit pas. C'est un foie qui devenait particulièrement pertinent dans la mesure où elle découvrait tout un monde et toutes les vérités cachées propres à ce monde. En dehors de sa petite arche d'anima, et encore quand je dis arche d'anima, elle pourra ainsi dire jamais quitter sa petite bourgade avec son petit musée, elle était dans un milieu extrêmement fermé, et là du jour au lendemain, voilà, elle est propulsée dans le monde extérieur, et là c'est intéressant. Du coup, le lecteur est au même niveau qu'elle, elle n'a pas de longueur d'avance par rapport au lecteur, et elle peut, tout se découvre en même temps qu'elle. C'était aussi le procédé qu'avait utilisé J.K. Rowling pour Harry Potter. Sachant que le point de vue donc interne, pour la passe miroir, j'utilisais la troisième personne. Ophélie, papa, elle, papa, tout était écrit à la troisième personne. C'est une première personne déguisée. Hein. J'aurais pu écrire entièrement cette histoire à la première personne, ça fonctionnait. Je crois que je n'aurais rien eu à changer, ça fonctionnait tout pareil. Et plus récemment, j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons d'écrire, un point de vue interne. Alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est d'aller voir aussi des points de vue internes qui se racontent à la deuxième personne, en tu ou en vous. Parce que j'ai lu aussi, c'était Janine Boissard, que j'ai vu des chapitres entiers écrits vous. Sachant que c'est le personnage et le vous. Hein. Donc c'est pas qu'elle interpelle le lecteur, le personnage et le vous. Donc, ça va loin, mais c'est super intéressant. Et alors là, c'est une autre démarche, c'est la multiplicité des points de vue internes, c'est-à-dire que quand le récit va se raconter à travers une multitude de points de vue internes. Et dans la passe miroir, au début, j'étais très principalement axée sur le personnage d'Ophélie, et petit à petit, au fur et à mesure que l'histoire avance, j'ai commencé à m'ouvrir sur d'autres petits points de vue pour compléter, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, là, le fait que la caméra soit toujours coincée à l'intérieur d'Ophélie, vu l'ampleur que prend le récit, ça commence à me coincer. Ou alors, il faut à chaque fois qu'elle rencontre un personnage qui va tout lui raconter en discours indirect, ce qu'il a lui-même vécu de son côté, ça devient un petit peu artificiel et lourd. Je me suis dit, c'est beaucoup plus intéressant pour le lecteur d'aller voir, tiens, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur une autre arche. Et qui contribue aussi à faire avancer l'intrigue. C'est quelque chose que j'ai commencé à développer plutôt sur la deuxième partie de la passe miroir. Et là où je vois que par rapport à ma propre évolution, dans mes projets actuels, c'est sur quoi en ce moment je suis vraiment en train plutôt de m'asseoir. C'est vraiment de me dire maintenant j'ai vraiment envie d'avoir plusieurs personnages. Il n'y a pas un personnage principal qui va guider la narration. Ce qui est intéressant, c'est de voir une vérité, mais vue de plusieurs points de vue différents. Et chacun va apporter ses propres problématiques. Et il faudra pour chacun trouver sa propre voix, V-O-I-X, et voix, V-O-I-E, les deux fonctionnent. Donc, ça peut être intéressant de vous poser cette question-là pour vous dans l'écriture. Quel point de vue, spontanément, vous avez tendance à adopter quand vous écrivez d'un point de vue, parce que vous le faites consciemment? Parce que moi, encore une fois, à mes tout débuts, c'était totalement inconscient. Donc, je pouvais faire de temps en temps un point de vue, de temps en temps un autre. Enfin, j'arrêtais pas de changer, en fait, de façon de faire, parce que comme je le faisais pas consciemment, je manquais de rigueur par rapport à ça. Et, en tout cas, c'était pas fait de façon consciente. Et comme je vois que par rapport à ça, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, je vais peut-être dire un petit mot au sujet des dialogues. Tant qu'à faire, même si j'ai plus beaucoup de temps, mais je pense que pour ça je vais le trouver. Hein, En fait, pour moi, c'était étroitement lié aux personnages eux-mêmes. Les dialogues émanent des personnages. Et c'est un exercice à part entière. À savoir, bah, quand on se pose la question, bah, tiens, rendre des personnages authentiques, bah, ça veut dire comment faire en sorte que les dialogues ne soient pas trop artificiels. On va dire, il faut trouver pour chaque personnage sa façon de s'exprimer, sa voix, un vocabulaire, et le dialogue va refléter la personnalité, le contexte, le caractère, le vécu du personnage. Donc, ça, c'est un sacré exercice. Pour chaque, moi, j'en parle, toujours aujourd'hui, j'apprends. Hein. Je ne suis pas toujours sûre de moi à 100%. Quand je fais parler des personnages, je me dis, mais tiens, est-ce que c'est pas moi qui suis en train de parler à travers eux et que non, est-ce que ça c'est bien eux que ça reflète là ce qu'ils sont en train de dire? Donc ça c'est une première chose et c'est aussi ben, donner l'illusion de l'oralité, faire en sorte que le dialogue sonne vrai. Et pour ça, parce que en fait je dis ça parce que je sais que mes tout premiers dialogues c'était très construit, hein, avec des syntaxes impeccables, sujet, verbe, complément, tout était extrêmement élaboré. Bon, au bout d'un moment dans la vie de tous les jours quand on Et c'est là que c'est très intéressant. C'est quand le fait d'écrire nous amène à être plus vigilants et plus attentifs sur ce qui nous entoure et sur ce qu'on pratique soi-même. C'est-à-dire se dire, tiens, en fait, les personnes qui sont autour de moi, dans le bus, dans un parc, dans ma famille, à table, tiens, de commencer à regarder, tiens, un peu comment est-ce qu'ils s'expriment? Comment est-ce que les phrases se font? Le nombre de phrases parfois qu'on commence et qu'on ne termine pas, ou le fait de passer du coq à l'âne, la syntaxe des phrases, c'est très rarement sujet, verbe, complément. Hein. Parfois, c'est tout mélangé hein, à l'oral. Donc, c'est intéressant de voir, d'écouter, d'être attentif à la façon dont parlent les autres et de s'écouter soi-même parler. Là, moi, parfois, quand je m'entends parler. Tu m'as dit, waouh! Ah oui, et puis je parle pas du nombre de lapsus aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de lapsus dans le passe-miroir, c'est que moi j'en fais des quantités. Non, mais tout ça, c'est hyper intéressant de reproduire à l'écrit ce qu'on entend à l'oral. Les dialogues aussi, bah, le petit piège, c'est que ça peut être parfois très entraînant hein, de faire un dialogue. Et parfois, bah, c'est vraiment juste du blablabla. Ouais. Mes tout premiers textes, nombre de dialogues, mais alors, sans queue ni tête, c'est juste que c'était pour faire parler les personnages, et ça, c'est bien, ça remplissait les pages, mais je le dis, en fait, à part être parfois extrêmement redondant, parce que tout ce qu'ils disent, on le sait déjà, ou alors vraiment, c'est. Je dis pas que tous les dialogues doivent contenir une information, parce que ça, pas du tout. Hein. Pour que c'est un petit goût de vrai, quand on parle, on n'est pas toujours en train d'apporter des informations. Mais voilà, c'est attention en tout cas pour moi, ça avait été le cas, de faire des dialogues parfois. Oui, c'était un peu, c'est vraiment bah, du gros bavardage, mais on voit pas trop où ça mène. Et au final, quand on a fini le dialogue, on se dit, ben. Pourquoi avoir montré cette scène, quoi? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Avoir fait un petit discours indirect pour dire que les personnages ont parlé, ça fonctionnait aussi, quoi. Donc, voilà. Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser par rapport au dialogue. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est un exercice qui, pour moi, est extrêmement récent. C'est de se dire, à force de pratiquer des dialogues, de se dire, tiens, maintenant, est-ce que je suis capable d'écrire des dialogues où je vais pratiquement jamais identifier le locuteur? Donc, vous savez ce qu'on appelle les verbes d'incise, hein, quand on va introduire, bah, tiens, dit Ophélie d'une voix. En sourdine, voilà. Par exemple, tous ces petits trucs qu'on casse dans les dialogues pour dire qui parle et la façon dont il parle. Et je ne sais plus qui m'avait fait cette réflexion, c'est qu'un dialogue qui normalement est particulièrement réussi, ben, n'a pas besoin. Parce que le lecteur doit spontanément identifier qui parle et si le dialogue est bien construit, il sait déjà comment il parle. Donc tous ces petits trucs du genre ah, s'exclama, murmura, enfin, les murmura, les souffla, qu'est-ce que j'en ai, les chuchota, j'en ai tellement abusé dans la passe miroir, mes personnages, ils s'expriment pas beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est tentant au début parce on a envie de dire, bah tiens, si on ne le dit pas, les lecteurs ne seront pas au courant. Alors il va manquer quelque chose, ou le dialogue, j'ai l'impression qu'il... Bah non, non, en fait, parfois, non, il y a des moments où ce n'est pas du tout nécessaire. Et comme ça, j'ai une amie autrice qui fait partie là, d'équipe d'animation, mais qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Svetlana Kirilina, qui, elle, m'a énormément appris sur les dialogues parce qu'elle a pratiqué des textes en full dialogue, c'est-à-dire ce sont des romans, il n'y a que des dialogues. C'est même pas du théâtre avec parfois des didascalies, c'est juste des dialogues, on est embarqué de force et on voit des personnes qui parlent. Et on ne sait pas qui, et c'est au fur et à mesure qu'on lit qu'on va commencer à savoir, à voir l'histoire et les personnages se préfigurer. Donc, c'est un très très bon exercice. Moi, je ne dis pas que je suis encore à l'aise avec, mais j'essaye. Je sais qu'avec la passe-miroir, j'ai fait un petit peu le tour des dialogues où je voulais vraiment un peu tout maîtriser dans les moindres détails. C'était très littéraire, c'était toujours très identifié. Je voulais que toutes les moindres petites nuances de voix soient restituées. Et là, maintenant, dans mes démarches actuelles, bah, j'essaie d'être dans quelque chose d'un petit peu plus brut, on va dire, de me dire, voilà, si le dialogue est bien fait, normalement, le lecteur doit comprendre qui parle et doit comprendre comment il le dit. Et voilà, c'est un bel exercice. Et je ne dis pas qu'il est facile. Avec tout ça, bah, et 16h01, et j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Vous avez vu un petit peu ce timing incroyable, hein? Je n'en reviens pas moi-même, je pensais pas que. Bah, du coup, là, on a tout à fait le temps. S'il y a des personnes parmi vous qui voudraient faire des interventions en complément. Oh, Camille, oh, c'est trop, trop beau. C'est ce que tu as dessiné. Pendant que je parlais?
Alors, j'ai un peu triché, je l'avais commencé avant, parce que comme j'ai franchi la barre des 4000 sur mon Instagram, je voulais marquer le coup.
Non.
Du coup, voilà, je l'ai terminé en t'écoutant.
Oh, c'est trop, trop émotionnant ce que tu dis là. Elle est
Oui, je sais.
beau. Elle est
Merci.
superbe. Il y en a
Merci, merci.
d'autres qui redemandent ton Instagram, tu pourras le remettre sur le chat.
Ok.
Et je précise, hein, Camille, généralement sur mon site web, comme à chaque fois, c'est Camille qui fait mes visuels pour ma communication, je donne à chaque fois le lien qui me dirige vers ses réseaux sociaux. Donc voilà, si vous ne trouvez pas ici, vous trouverez sur mon site Camo la ruse, avec un
Voilà.
Z, sur
Avec un Z,
Instagram.
évidemment.
Avec un Z, évidemment, ce serait trop
C'est mon
facile.
vrai nom en même temps. Donc.
Voilà. Et là, du coup, Camille, est-ce que tu as envie, toi, de faire un petit complément par rapport à tout ce dont je viens
Écoute, ça me paraît déjà très, très complet, hein, tout ce
de
que tu as dit. Ce n'est pas une tâche aisée, hein, la création de.
Ah, bah,
Moi,
surtout
toutes les personnes.
que toi, je pense que tes personnages, tu les crées quelque part entre 2 et 3 heures du matin.
Oui, c'est ça. Et puis parfois, je les fusionne, je les abandonne, je vais les rechercher.
Oui, alors là, effectivement, mais
Et...
ça, je pense que c'est quelque chose que justement, quand on fera l'audio rencontre avec toi et
Oui.
les invités surprises, on verra un petit peu justement en détail ce que tu es en train de traverser en ce moment avec cette fameuse fusion de personnages. Voilà, j'ai
Voilà,
fait un
comme dans
plan, j'ai
Dragon Ball.
commencé une histoire et j'ai une idée, mais super, sauf que ça m'amène à tout revoir depuis
Voilà, un petit
le
reboot en perspective.
début. Mais bon, voilà, ce sera avec grand, grand plaisir qu'on pourra se pencher là-dessus lors de la prochaine audio-rencontre. Je n'en dis pas plus pour le moment, hein,
Avec plaisir,
pour
ouais.
pas trop dévoiler. Mais c'est vrai qu'après, ce sera très intéressant de voir voilà, la construction des personnages d'un point de vue autre que romanesque. Parce que là, vraiment, moi, je parle en tant que personne qui a beaucoup pratiqué l'écriture de romans dans le domaine bah, du coup, de la bande dessinée. De la scénarisation, il y a certainement des choses qui sont en commun et d'autres qui sont différentes. Donc
Oui.
voilà, ça ce sera très intéressant du coup de compléter par rapport à ça. Et du coup, là je m'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient été tentées de passer sur le vocal? Là, c'est une nouvelle, c'est une première, et je vais voir si je ne me plante pas pour le faire. Si ou jamais, bah, vous avez soit par rapport à la création de personnages, bah, une question, que là, vraiment, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas été abordé. Comment? Ou alors un témoignage, c'est-à-dire que vous, votre propre pratique et en quoi ça peut justement différer de la mienne. Alors, je vois qu'il y a des questions parfois sur le chat. Mais est-ce que vous vous sentez de passer sur le vocal pour les poser? C'est impressionnant, hein. Après, il n'y a aucune obligation. Ça, je dis, hein. C'est parce que comme je suis toujours en train de vous muter, là, j'ai l'impression d'être de vous bâillonner. En fait, Nastia, c'est de savoir si tu serais intéressée de poser ta question sur le vocal. Mais si tu ne t'en sens pas, il n'y a pas de problème. Je la dis à voix haute et on regarde ça ensemble. Parce qu'Aline, on est tous pareils, plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Ah, et Sophie aussi qui avait une question par rapport à l'antagonisme. Mais voilà. Au moins, vous me consolez quelque part parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir posé un gros bâillon de force sur tout le monde. Vous êtes de grands timides. Vous auriez peut-être pas été très à l'aise si j'avais activé tous les micros d'office. Ah oui, le micro est bloqué, c'est normal. Nastia, j'active le micro si tu le souhaites. Si tu me dis que tu es d'accord, j'active ton micro. Il faut que je te trouve dans la liste, par contre. Alors, Nastia, tu es où? À la lettre N, je suppose, c'est dans l'ordre, hein. Oui, je t'ai trouvé. Alors, je tente. Je tente quelque chose. Oui.
Bonjour.
Ah, bonjour,
Ah,
Nastia.
tu m'entends, génial.
On
Ah, ça
t'entend.
fait trop plaisir.
Oh, la voix
Bah, merci beaucoup
un
pour.
autre être humain
Oui.
en dehors de l'équipe, ça fait bizarre.
Merci beaucoup pour toutes tes explications. Moi, ça me fait rêver tout ce que tu me racontes, etc. Parce que moi, je suis encore toute jeune. J'ai à peine 18 ans et j'ai vraiment envie de me mettre à l'écriture, de raconter des histoires, de développer des personnages, etc. Donc, toutes tes petites indications, elles sont bénéfiques pour moi et je t'en remercie.
Oh, ça fait plaisir.
Et du coup, ma question, c'était par rapport au pouvoir des personnages, par exemple les griffes des dragons, etc., qu'est-ce qu'ils représentent pour le personnage? C'est-à-dire, est-ce qu'ils apportent quelque chose en plus? Est-ce que c'est une métaphore d'un de je sais pas de quelque chose des par exemple les griffes des dragons dans la société est-ce que ça peut correspondre à certains caractères des personnes ou je ne sais pas ou par exemple la toile aussi voilà c'était
Oui, alors là, dans le cadre de la Place Miroir, mais de façon générale, hein, dans n'importe quelle œuvre de fantasy, hein, où il y aurait une dimension comme ça un petit peu surnaturelle, en tout cas par rapport à la Place Miroir, moi, clairement, ce qui était intéressant, c'était de voir l'enracinement psychologique et le rapport au pouvoir. Alors, par rapport à Ophélie, là, clairement, c'est dit de façon assez explicite, parce qu'il faut avoir un certain état d'esprit pour pouvoir pratiquer un certain pouvoir. Le passage de miroir réclame de s'affronter soi-même, d'être capable de se voir tel que l'on est. La lecture du passé, c'est de s'oublier totalement pour faire place au passé. Donc là, par rapport à ça, c'est assez explicite. Par rapport à Thorne et les griffes, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était là, on est dans le cas de figure de quelqu'un qui a honte de son pouvoir et qui ne l'assume pas. Et c'est un personnage qui, je pense, peut avoir une certaine dimension violente. Mais qu'il n'assume pas du tout. Et là, les griffes, bah, et justement, alors là, je ne vais pas spoiler, mais ce qui a été intéressant de voir par rapport à moi, c'est de voir l'évolution du personnage et le rapport avec son propre pouvoir jusqu'au moment où ça ne se passe plus très bien par rapport à ça. Mais de façon générale, on voit qu'il a presque honte et que les rares fois où il s'adonne à utiliser ce pouvoir-là, à s'en servir, pour lui, c'est vécu comme du dégoût. Donc,
D'accord, ok.
Ça, pour moi, c'était intéressant de le voir. Alors que pour le reste de sa famille, c'est un pouvoir, c'est une fierté. C'est une caractéristique du
Oui,
clan des chasseurs. Ça fait partie, justement, c'est ce qui fait dire que voilà, on fait partie de ce clan-là, on est fier de ce pouvoir, on le montre et on en fait ça. D'ailleurs, bah, Les tatouages sur les bras, ça montre bien que voilà, qu'on a ce pouvoir. Et lui, alors est-ce que ça viendrait du fait que c'est un bâtard qui n'a pas été reconnu et que donc ce pouvoir-là, bah, il a déjà, c'est pas une version complète hein, qu'il a par rapport à, aux autres membres, c'est une version moins puissante hein, qu'il a du pouvoir. Le fait que voilà, qu'il n'y ait pas de reconnaissance officielle de la part de la famille, en tout cas, il a un conflit intérieur avéré par rapport à ce pouvoir-là. Et ça, c'est intéressant du coup de voir le conflit intérieur hein, que ça peut générer chez lui. Et par rapport à, comme tu parlais de la toile, ben voilà, encore là, ça peut encore montrer autre chose à propos des personnages, sachant que là, c'est un pouvoir qui est, comme tous les personnages sont nés avec et ont l'habitude de cohabiter, enfin, ils ont vécu ainsi, c'est pas tellement remis en question. Ce qui est là où ça pose question, alors, j'ai pas envie de trop spoiler, mais on va dire, c'est si jamais bah, pour l'un des personnages, une déconnexion de la famille, comment c'est vécu. Et là, c'est faire l'expérience de la solitude.
Ouais, oh bah ouais, clairement. D'accord. Bah merci beaucoup, ça m'a vachement éclairé.
Ah bah avec grand plaisir.
Ouais. Et en posant ma question, je commençais à trembler. Hein, donc n'hésitez pas les autres à poser vos questions. Moi j'y suis allée.
J'ai l'impression que c'est comme une grande piscine d'eau glacée. Il faut se jeter à l'eau.
Finalement, bah, on a les réponses. C'est génial. Merci beaucoup Christelle.
Mais avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie Nastia.
Merci.
Alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui seront qui veulent se jeter à l'eau. Là vous pouvez pas le voir mais je suis en train de me frotter les mains. Ah, il y a Claude qui veut bien. Alors il va falloir que j'aille te trouver. Je pense que tu es plus haut dans la liste. Claude. Oui, je t'ai trouvé. Hop, et normalement, ça marche.
Bonjour, vous m'entendez ?
Mais oui, on t'entend très bien, Claude. Et bonjour, bonjour. Bien,
bonjour, merci de m'avoir donné la parole.
Avec plaisir.
Je voulais poser une question par rapport, de manière plus générale, en fait. Je sais que dans mes écrits, genre, j'aimerais beaucoup, la question de la diversité me tient très à cœur. Et en fait, justement, je me demandais... Enfin, sauf que le problème, c'est que c'est très facile de tomber dans les clichés. Et donc, je me demandais comment justement éviter de créer des personnages stéréotypés lorsqu'on veut créer des personnages qui ont racisé ou qui ont d'autres orientations sexuelles ou handicapées, bref.
Alors, moi, je sais que j'ai eu deux démarches un petit peu particulières. Dans la passe miroir, alors c'est particulier parce qu'on est dans un univers fantasy. Donc là déjà, on n'a pas le même contexte géopolitique que dans le nôtre actuel. Donc c'est pas les problématiques qui sont propres à ce monde-là ne sont pas forcément les nôtres. Mais je sais que par exemple, moi quand j'avais écrit le début, donc les deux premiers tomes, il y a certains lecteurs qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de diversité. Ils disaient oui, mais dans au pôle, et particulièrement à la cité ciel, oui tous les personnages sont blancs. Et pour moi, ça avait du sens, puisque ben, c'était tous des descendants d'un esprit de Farouk, qui était lui-même blanc de peau, et c'était une descendance directe, et qu'en plus, il y avait un haut degré de consanguinité, et il n'y avait pas du tout un choix à ce niveau-là, de ma part, de dire « oui, il faut qu'ils soient tous blancs ». Il y avait après, ben, il y a toute la deuxième partie de l'histoire qui se passe à Babel, où là, on comprend qu'il y a beaucoup plus de variété à ce niveau-là ethnique. Bah moi j'ai d'autres lecteurs qui ont décroché du coup parce que ça ne se passait plus à la cité et c'était du coup c'était marrant de voir que ce qui m'avait été reproché d'un côté ça avait décroché d'autres personnes de l'autre justement parce que ça allait changer trop du contexte auquel ils étaient habitués et c'était pas une ambiance qui dans laquelle ils se reconnaissaient tout simplement et mais en fait moi, à ce stade-là d'écriture, je ne m'étais pas du tout posé ces questions-là. Je ne me suis pas dit, oui, il faut que je fasse de la diversité ou il faut que je remplisse un certain quota pour dire oui, il faut que je... Je ne me posais pas ces questions-là. J'ai écrit de façon très instinctive. Et là où, du coup, quand j'ai commencé vraiment à me dire, mais tiens, comme je disais tout à l'heure, presque en introduction, quand les choses se font de façon inconsciente et qu'on essaie de faire passer au niveau conscient, une fois que la question émerge, bah, quelle réponse on décide d'apporter? Et alors là, moi, ça va être une démarche tout à fait personnelle qui ne va pas forcément toi te représenter par rapport à ton propre questionnement. Moi, je sais que ce qui m'a amené justement dans mes histoires, là, c'est plutôt dans mes projets du coup post-passe-miroir, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui reste des personnages quand on a retiré toutes les étiquettes? Et c'est-à-dire, là, justement, je disais tout à l'heure que j'avais adopté la première personne, une multiplicité de points de vue à la première personne. Et je me dis, bah, tiens, jusqu'où je peux aller? C'est-à-dire, je ne précise absolument rien du personnage. C'est un jeu et on ne sait rien d'autre. On ne sait pas à quoi il ressemble. Et même pour un certain personnage, je me dis, je ne précise pas du tout son sexe. C'est que du jeu. Donc, on ne sait pas. Et je me dis, qu'est-ce que le fait de ne pas savoir ça, de ne pas avoir cette information-là, qu'est-ce que ça change par rapport au personnage? Absolument rien. L'essence est toujours là. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, de se dire, bah, tiens, c'est de finalement de se dire, je traite tous les personnages exactement de la même façon. Tout le reste, finalement, ça va être des étiquettes identitaires qui vont venir s'ajouter. En tout cas, là, je te parle vraiment de ma démarche à moi. Hein. Donc, tu vas peut-être pas forcément te reconnaître dedans. Mais si après, il y a d'autres personnes, hein, qui sont confrontées à ce questionnement dans le chat et qui veulent apporter une réponse par rapport à elles, la façon dont elles s'y prendraient. Moi, je sais qu'en tout cas, ma démarche à moi, ça a été plutôt d'aller, de me dire, tiens, je vais essayer de faire en sorte que justement, de ne pas le préciser, parce que pour me dire, c'est, au final, ça ne change rien en essence et en identité finalement fondamentale, ce qu'est le personnage. Mais je me doute que, voilà, moi, c'est là où le questionnement, moi, ça m'a amené dans cette direction-là. Toi, ça va peut-être t'amener dans une autre direction, du coup. Mais là, du coup, je n'ai pas de réponse, on va dire, toute faite à te donner. C'est peut-être toi qui vas devoir aller explorer. C'est peut-être juste peut-être de pas te dire, tiens, parce que le personnage est racisé ainsi ou sexualisé ainsi, il faut qu'il agisse ainsi. Peut-être justement le fait que ça ne change absolument rien pour lui de ce qu'il est en essence.
Oui, merci.
Ouais. Avec grand plaisir. Et voilà, si y a des personnes qui voudrait sur le chat par rapport à ça, qui voudrait intervenir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Mais il y a des grands, grands timides. Alors, du coup, quand Sophie, tu dis « je veux bien essayer », c'est-à-dire tu veux bien essayer de venir sur le vocal, que je comprenne bien ton intention? Que je te fasse pas basculer sur le vocal de force. Oui, ah bah très bien. Hop, attends. Je te cherche dans la liste. Sophie, tu es là. Voilà. Hop. Et voilà, normalement, tu as. Non, t'es toujours ton micro est barré, alors là, c'est peut-être de ton côté. Il faudrait peut-être que tu. Oui, voilà, c'est bon.
Oui, vous m'entendez?
Mais on t'entend, Sophie. Et bonjour.
Okay. Bonjour. Désolée si je bafouille. Du coup, j'avais deux questions, mais je vais en dire qu'une. En fait, quand j'écris, j'essaye de construire mes personnages pour qu'ils apportent quelque chose à l'histoire, sauf qu'en fait, ils changent tout le temps. Au fur et à mesure de l'histoire, j'ai beaucoup d'idées qui viennent toujours, en fait, changer beaucoup de choses dans l'histoire.
Oui.
Si je rajoute tel détail ou tel détail ou tel détail. Oui. Et en fait, j'arrive pas à choisir ceux qui vont être pertinents ou ceux qui vont pas, ou ceux qui vont l'être moins. Et je sais pas si vous avez une méthode pour arriver à canaliser, en fait, toutes les idées qu'on peut avoir. Et parce que mon cerveau va très vite, et c'est très chiant. Et essayer en fait d'arriver à garder ses idées et de canaliser. Et voilà, en gros, savoir s'il y a une technique.
Oui, alors là, j'ai envie de dire, c'est presque Camille qui pourrait bien te répondre parce que je crois qu'elle est soumise exactement à la même problématique avec une sorte de hyper activité cérébrale qui fait que il y a toujours de nouveaux détails qui viennent s'ajouter et parfois qui sont totalement contradictoires et qui font que de temps en temps ça part dans une direction et puis tout d'un coup ça se dit ah bah tiens, si j'allais plutôt dans cette autre direction là.
Ouais,
donc
et
en fait
coup, c'est vrai que
oui, pardon, j'allais juste dire à Sophie, première chose, tu n'es pas seule. Donc voilà, ouais, c'est moi Camille, je te laisse parler.
Non, mais en plus, c'est pour dire que je n'avais pas encore trouvé la recette secrète pour canaliser correctement ce genre d'idée, parce que je recommence à chaque fois mon histoire, donc c'est pas très efficace.
Ok,
mais je pense qu'au bout d'un moment, une fois que voilà, tu arrives à faire le tri dans tes idées et tu te dis, moi, j'ai, voilà, pour ce personnage, j'ai envie de garder à coup sûr cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Et ça te fait déjà une bonne base pour commencer à le développer. C'est-à-dire, après, bon, bah, je rajouterai ces détails par la suite, sauf si c'est vraiment un truc qui est en totale contradiction avec ce que tu as décidé au début, auquel cas, c'est embêtant.
Oui, je vois.
Ben, moi, je sais
D'accord.
que par rapport à la... Alors, c'est pas forcément par rapport au personnage, mais c'est de façon générale, dans le processus d'écriture, dans la première version de La Place Miroir, comme j'avais totalement improvisé et que j'avais plein d'idées, ben, j'avais vraiment tout écrit tel que ça me venait, sans aucun filtre. Hein. Vraiment, je partais dans un sens puis dans l'autre. Donc, c'est ce qui a amené une amie à moi qui avait lu le premier tome à dire... De la place miroir, enfin du premier tome, elle m'a dit, bon, c'est une bonne histoire, mais ça ressemble à un train qui a beaucoup, beaucoup trop de wagons. Donc, voilà, elle m'a dit, là, il faudra peut-être à un moment donné que tu fasses des choix. Et moi, sur le moment, je me suis vexée comme un pou. Je me suis dit, ah, non, il n'y a rien à jeter, tout est bon. Et en fait, il m'a fallu. En fait, ce qui a été bien pour moi, c'était de continuer d'avancer l'histoire. Je me suis dit, tant pis, je continue d'aller de l'avant, parce que là, pour le moment, je n'arrive pas à faire le tri. Et il est arrivé un moment où je suis arrivée jusqu'au bout d'un certain processus. Et tout d'un coup, j'ai eu une sorte de prise de hauteur où je me suis dit, tiens, là, je commence à mieux discerner les choses. Et par rapport à mon intrigue, surtout par rapport à ce vers quoi je me dirige, notamment tout ce qui va être en termes de dénouement, de résolution, de mystère, tous ces trucs-là, je commence à voir quelles sont vraiment les problématiques de l'intrigue. Donc, je commence à voir, tiens, ça, oui, si par exemple cet élément-là, je ne le donne pas, il va manquer quelque chose pour comprendre. Alors que celui-ci, qu'il soit là ou pas là, ça change rien à l'histoire. Donc là, déjà, ça peut faire un premier tri. Si tu vois qu'il y a un élément
Je
qui,
vois.
par rapport à ton intrigue, tu dis non, là, ça, que ce soit, si je le retire, ça change rien, ça fonctionne toujours pareil, c'est que techniquement, voilà, t'as pas forcément besoin de lui, sauf si, pour toi, c'est important pour une autre raison. Parce que bon,
D'accord.
l'intrigue, c'est important. Idéalement, faut vraiment essayer de se centrer au maximum autour de l'intrigue, parce que sinon, tu auras, comme mon éditeur, la réflexion, ça manque de fil de tension. C'est ce qu'il m'a le plus souvent répété pour La Place Miroir. D'avoir le
Ouais.
fameux fil de tension. J'ai toujours pas
Oui.
trouvé hein, ce que c'était parce qu'apparemment, j'ai beau essayer pour chaque tome, j'essayais de définir ce qu'était le fil de tension, d'aller au plus près, mais comme j'avais toujours à peu près la même réflexion
Ouais.
qui revenait, c'est qu'apparemment, j'ai pas encore trouvé la recette magique. Mais après, il y a des choses qui sont importantes pour soi. C'est-à-dire, sur le plan symbolique, voilà, donc, c'est peut-être pas l'intrigue au premier plan immédiat, mais ça va dire quand même quelque chose à propos des personnages et, on va dire, d'une thématique, par exemple. Si tu as des thèmes que tu souhaites aborder dans ton histoire et que là, tu vois que tu es en plein dans ces thèmes-là, tu traites ces thèmes-là, ce serait dommage de te priver de ça.
D'accord.
Voilà.
Bah,
Donc,
merci
mais en tout
beaucoup.
cas, voilà, je te conseille, c'est d'aller de l'avant. Là, tant que tu n'arrives pas toi-même justement à faire le tri et que tu as l'impression que tout est important, eh ben c'est que pour le moment, tout est important pour toi. Donc, bon, après, juste, je te souhaite, c'est que tes idées ne soient pas trop contradictoires, parce que si ça te fait aller tantôt à droite, tantôt à gauche, et que toi-même, tu as un peu l'impression que tu es ballotté, c'est pas confortable. Mais si, voilà, essaye
Oui.
en tout cas au maximum d'avancer, de voir jusqu'où ça te mène. Si tu dis, voilà, là, je prends on va dire, cette grande trajectoire-là principale et je vais jusqu'au bout de ça.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Mais avec plaisir. Oui?
Est-ce que je peux poser une deuxième question ou est-ce que, enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui veulent poser des questions ou
Comme
autre?
j'ai l'impression pour le moment, ils ont l'air d'être plutôt discrets. Enfin, j'ai pas l'impression qu'au niveau du vocal, il y a beaucoup, beaucoup de volontaires. Donc, je pense qu'il y a tout à fait le temps pour une deuxième question. Hein. Surtout que les
D'accord,
questions,
je
généralement, elles
comprends.
peuvent concerner plusieurs personnes. Hein, c'est ça qui est intéressant.
D'accord. Oh, bah, je l'avais posé il y a, enfin, au tout début pendant que vous parliez des protagonistes. Et du coup, c'était par rapport, moi, c'était par rapport aux antagonistes. Est-ce que, bah, du coup, là, je peux, enfin, pour pas spoiler, je vais dire antagoniste, mais est-ce que l'antagoniste, pour vous, il partait en fait, il était déjà. C'était déjà un antagoniste avant de partir du protagoniste. Attendez, j'essaie de mettre mes idées en place.
Mais prends tout ton temps.
En gros, est-ce que pour vous, l'antagoniste, il part du protagoniste? Est-ce que c'est en créant votre protagoniste et peut-être ce qu'il y a autour que l'antagoniste est venu naturellement? Ou est-ce que l'antagoniste, il est venu naturellement, même indépendamment en fait des autres personnages?
Alors, c'est
Je ne
une
sais pas si
bonne
c'est clair.
question et je suis en train d'essayer de me rappeler comment ça s'est passé pour la passe miroir. En fait, je me rends compte que la figure de l'antagoniste dans la passe miroir est arrivée tardivement. Que pendant très longtemps, moi-même, je ne savais pas trop qui c'était, mais je devinais qu'il y avait vaguement quelque chose dans l'ombre qui se tramait. Et c'est en fait, idéalement, ce qui aurait été idéal, c'est que je me pose toutes les questions que je me suis posées à propos des personnages principaux, que je me les pose à propos de l'antagoniste dès le début, même si on ne le voit pas forcément agir au premier plan au début de l'histoire, parce que ça conditionne énormément le reste. Dans le cas de la passe miroir, je pense qu'on peut dire que pratiquement toute l'intrigue découle de ce qui s'est passé au niveau de l'antagoniste. C'est toute l'histoire et la conséquence finalement de ça. Donc, mais il s'est construit pour moi au niveau de la création même. Il s'est presque, c'est au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'histoire que j'ai commencé à le cerner. Et même ça m'arrivait parfois de changer d'avis en cours de route par rapport à. Il a plusieurs fois parfois changé de forme avant de se stabiliser et que tout d'un coup je me dise, ah tiens là c'est vraiment. Donc parfois, quand c'est de l'antagoniste, parce que là, dans la passe miroir, c'est un antagoniste qui est caché. Tu pourrais faire le choix de faire un antagoniste qui est totalement montré et qui, voilà, dès le début, on le voit, il est clairement identifié en tant qu'antagoniste. Dans ce cas-là, c'est pas du tout la même problématique.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Mais avec plaisir, j'espère
Et
que.
merci beaucoup vraiment d'avoir écrit. Enfin, ça paraît bête comme dit comme ça, mais moi j'écris depuis vraiment depuis toujours. J'ai 21 ans, j'écris depuis toujours et j'arrivais plus du tout à écrire. Et en fait, quand j'ai commencé à lire votre saga, bah, j'ai vraiment. C'est à la fin de votre saga que je me suis remise à écrire avec une fanfiction sur la suite. Et c'est
Oh.
grâce à vous que je me suis remise à écrire et que depuis, bah, enfin voilà, que j'écris. Du coup, bah, je tenais vraiment à vous remercier parce que, enfin, vous avez vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie.
Oh,
Voilà.
je suis extrêmement touchée. C'est beau ce que tu dis. C'est le cycle
Bah, c'est vrai, surtout.
de la vie. J'ai moi-même commencé avec des fanfictions, donc tu vois, j'ai l'impression, et c'est les fanfictions qui m'ont mis le pied à l'étrier pour après me lancer dans mes propres projets. Donc, tu vois, j'ai un peu l'impression d'un cycle qui se perpétue, mais c'est beau. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça donne du sens au fait d'être publié.
Bah, voilà.
En tout cas, je te
Merci
souhaite
beaucoup.
beaucoup d'inspiration et de plaisir, hein, dans l'écriture.
Bah, merci. Moi, je souhaite à continuer de vous lire aussi parce que voilà, j'espère que pour vous aussi ça va continuer et puis voilà.
En tout cas, en matière d'écriture, ça ne s'arrête pas. Après, la publication, je ne contrôle pas toujours, mais en tout cas, en matière d'écriture, ça continue. Et je
Bah
tiendrai
voilà,
au courant,
bah,
je tiendrai au
je
courant,
vous
ça c'est
souhaite.
sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sophie.
Bah merci à vous.
Un grand merci, un bon week-end. Et de façon générale, hein, vraiment, merci aussi à toutes les personnes, hein, là, qui ont été présentes aujourd'hui, qui ont participé à l'écrit, à l'oral. Et comme vous avez pu le constater, hein, quand j'ouvre après l'accès au vocal pour les personnes. Je demande s'il y a des questions. Au final, vous voyez que j'y réponds pas. Hein. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais au tout début, j'apporte pas de réponse, mais c'est quand on arrive à bien formuler sa question que soi-même on arrive à trouver sa propre. Une réponse, en tout cas, parmi d'autres, parce que plusieurs réponses sont possibles. Donc, en tout cas, bah, ça, pour moi, c'était un très bon moment. J'espère que ça l'a été pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à travailler enfin, c'est même pas travailler, c'est vraiment mener toute cette réflexion autour des personnages. Je pensais au début, je me suis dit, oulala, de quoi est-ce que je vais parler? Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est venu un petit peu tout seul. Donc, j'espère, hein, que pour vous, ça a été voilà, intéressant. Si ça peut amener à provoquer d'autres questions, des questions que je n'ai pas soulevées, mais allez. Par effet domino, et que du coup, bah, chacun arrive à trouver on va dire, sa petite piste de réflexion. Bah, alors là, c'est parfait. Et c'est pas fini parce que, alors là, pour le moment, je n'ai pas de date à proposer, mais je réorganiserai une petite rencontre. Alors là, certainement la prochaine, ce sera comme la précédente, un petit spécial, un chat où on va juste papoter de tout et de rien. Là, il n'y aura pas forcément de fil directeur. Et je pense que la prochaine, bah, ce sera la fameuse, voilà, si j'attends confirmation des invités, mais normalement, ce sera avec Camille. Et un, voire deux invités surprises. Mais là, je n'en dis pas plus pour le moment, juste j'annonce un petit peu la couleur.